chapitre 9, ténèbres. Comme il était rationnel, M. Bourquerin, déjà chargé de l'affaire de Crochan, fut désigné pour instruire simultanément l'affaire Édouard Orlac. Et le même substitut, M. Lambert Gondat, scruta les deux crimes. Il faut savoir que les médiums ayant pris séance chez M. Édouard Orlac, le soir de sa mort, se présentèrent au parquet dès le lendemain matin de leur propre initiative. « Il y a d'honnêtes médiums, m'avait dit Cointre, et ceux-là ne sont pas tous névropathes. » Sur ma foi, n'étaient-ils pas de ce nombre les trois témoins qui firent le récit du drame avec tant d'émotion et de simplicité ? « Oh, cela dépend de ce que vous entendez par honnêteté, me répliqua l'inspecteur, lorsqu'en plein interrogatoire je lui fis part de mon impression. Observez soigneusement. » J'observais, et je crus en effet discerner quelques nuances entre l'accent de franchise que mettaient les médiums à raconter le meurtre et l'indignation avec lesquelles ils se défendaient d'avoir usé des accessoires contenus dans les sièges. Ils prétendirent que ces fallacieux objets n'étaient point leur propriété, que déhontés imposteurs les avaient mis là dans un autre temps. Jamais l'idée ne leur serait venue qu'ils étaient assis sur des valises de saltimbanque. Quant à eux, la fraude n'était point leur faite. Et ils en protestaient avec une hauteur ennoblie de tristesse. Mais le ton changeait lorsqu'ils en venaient, l'un ou l'autre, à dire comment M. Édouard Orlac avait été poignardé dans les ténèbres par une main phosphorescente surgit tout à coup devant lui à l'instant qu'on évoquait les mânes de Vasseur. Il y avait là plus de sincérité. Les trois récits concordaient. Thérèse Panard peut-être se révéla plus précise que Smith et Antonini, mais la fleuriste, l'ancien jongleur et le cartonnier ne se contredirent sur aucun point. Effrayés d'un phénomène qui dépassait de si haut les limites ordinaires de l'occultisme, la panique les avait saisis, et dénués d'illusions sur les sentiments qu'une police mal informée nourrit à l'égard de leur corporation, ils s'étaient sauvés en pagaille. Ils le regrettaient, comme le prouvait bien leur comparution volontaire. L'interrogatoire se poursuivait et les réponses succédaient aux demandes formulées par M. Bouquerin. M. Édouard Orlac lui-même avait introduit ses hôtes dans le salon où personne ne se trouvait. On avait fait l'obscurité dès le début de la séance. Vasseur était le sixième assassin traîné par M. Édouard Orlac devant son tribunal pendant cette audience d'assises chimérique. À la question « Quelqu'un pouvait-il être caché dans un meuble ?» les médiums répondirent ne pas savoir. Mais Cointre dit « Le coupable est entré par la porte après avoir interrompu le courant électrique. La portière d'étoffe empêchait de voir le jour. D'ailleurs, il faisait déjà noir dans le vestibule. Quant au bruit de la porte, une voiture passant sur le pavé l'aura étouffé. L'homme, alors, s'est coulé derrière le fauteuil de M. Orlac. Et là, ayant frotté sa main et son couteau d'un bâton de phosphore, il attendit l'évocation de Vasseur. Et les empreintes, rappela M. Bourquerin en faisant de son index un revolver qu'il braquait contre son nez dans la direction de l'inspecteur. Un gant ? Naturellement. Oh, ce mot « naturellement » définissait en cinq syllabes la méthode du policier. Cointre rejetait d'emblée tout ce qui, selon lui, n'était pas naturel. Je doutais seulement que sa culture fût assez étendue pour lui permettre, sans erreur de classification, de partager le monde des hypothèses en naturel et pas naturel. Les médiums branlaient du chef. Pour peu qu'ils fussent sincères, rien à leur sens n'était plus vrai que ce que l'inspecteur jugeait faux. Et ils étaient trois contre un. Après cela, d'autres médiums, familiers du petit hôtel, déposèrent à leur tour sans résultat. Stéphane avait redit à M. Bourquerin ce qu'il savait. Grâce à Rosine qui l'endoctrina, sa déposition fut véridique. Si violente en effet avait été son émotion, qu'on ne peut savoir ce qu'il aurait raconté au juge si sa femme, consciente de son état, ne s'était donné la tâche de le raffermir sans en avoir l'air et de lui prouver que son père était mort indépendamment de sa volonté. Il suffit d'ailleurs qu'elle appuyât sur le détail du crime pour que Stéphane échappât à l'emprise de l'obsession et reconnût la vanité de ses transes. Il dit seulement « Ben, j'ai eu tort de parler de la concierge à M. Cointre. Elle a certainement vu que j'étais soucieux quand je suis sorti. Et si on l'interrogeait... »« Mais on ne l'interrogera pas, » affirmait Rosine. Certes, elle était tout à fait tranquille quant à l'innocence absolue de Stéphane en cette affaire. Mais elle se trouvait fort gênée pour lui parler à cœur ouvert. Car il ignorait toujours l'aventure des bijoux volés et remplacés par la carte de la bande infrarouge, puis restitués mystérieusement, accompagnés d'une autre carte similaire. Il ignorait aussi les apparitions de Spectrophélès. D'autre part, c'est par surprise que Rosine avait découvert l'existence de 3 des couteaux marqués d'un X. Il lui déplaisait d'avouer sa petite perquisition clandestine dans la chambre des mains. Enfin, elle entendait ne pas contrarier son mari par des allusions à ce secret qu'il l'avait prié de respecter. Tant de cachotteries l'emplissaient d'un malaise constant. Elle maudissait le sort qui l'obligeait, elle, si franche, à l'hypocrisie. Et elle cherchait fiévreusement quel rapport unissait entre eux ces crimes costumés et tous ces phénomènes romanesques qui, depuis plusieurs mois, illustraient sa vie. Quel rapport entre le sar Melchior et Spectrophélès, entre Spectrophélès et l'étranglement du chevalier par un mannequin spectrophélique. Quel rapport entre ces couteaux sanglants, chiffrés d'un X parvenu à Stéphane, et l'assassinat de M. Édouard Orlac, percé d'un couteau semblable. Quel rapport entre le vol des bijoux rue Guinemer et la visite non moins inexplicable du coffre-fort de la rue d'Assas, où rien ne manquait. Pourquoi ce détraquement cérébral extraordinaire consécutif chez Stéphane à la catastrophe de Montgeron, ou consécutif à sa trépanation? Comment avait pu se produire ce rêve étonnant, ce rêve extériorisé du début? Que s'était-il passé dans le rapide de Marseille? Quels étaient ce fantôme, ce mage, cette poupée, cette bande, ces 10? Les crimes n'expliquaient pas les signes qui les avaient annoncés. Les nouveaux mystères ajoutaient aux anciens et ne les rendaient pas moins hermétiques. Rosine surveillait Stéphane. La marche de l'instruction semblait le satisfaire. Mais rien ne pouvait dissimer son hypocondrie. Quand l'usurier, sachant qu'il héritait, s'était empressé de proroger l'échéance du billet de 10 000 francs, cette amabilité l'avait trouvé morose et acrimonieux. Cependant, devant l'évidence des faits et la haute honorabilité de l'artiste, les soupçons s'évanouirent que sa première attitude avait engendré. Ce fut pour se porter sur les époux crépins, dont l'absence parut sujette à caution. Mais l'emploi de leur temps fut justifié. Cointre, qui répondait de leur innocence, se rendit à Bar-le-Duc, contrôla leur séjour chez la sœur d'Hermance, et profita de son déplacement pour se faire délivrer au bureau de poste l'original du télégramme mensonger qui avait déterminé le voyage des 2 voyageurs. « Sœur au plus mal, vous attendons demain sans faute, Eugène. » Remis au guichet la veille du crime à destination de Paris, ce texte portait le nom d'un expéditeur de fantaisie, Dubois. Il était écrit à la machine. Cointre avait de la mémoire, comme on sait. Il tira de son portefeuille la carte pneumatique reçue par M. Édouard Orlac le matin de sa mort, et comparant les 2 pièces, reconnut sans peine que la même machine avait tapé le télégramme et le pneu. Comme il s'en était douté, l'invitation au voyage et le conseil spirit émanaient d'un seul inconnu. Le même personnage, avec ou sans compère, avait provoqué le départ des Crépins et l'évocation de Feu Vasseur. Ayant recueilli au passage cet indice graphique qui n'avait pour le moment qu'une valeur confirmative, l'inspecteur revint à Paris et acheva de rendre aux Crépins la blancheur qui leur était due. Au demeurant, M. Édouard Orlac n'avait laissé aucune disposition en leur faveur. Sa mort les privait d'un véritable père et l'on ne pouvait les accuser plus longtemps d'avoir tranché cette vie dont ils vivaient. Cointre, de concert avec M. Bourquerin, négligeait toutes les pistes qui s'écartaient de la contrée médiumnique. C'était les médiums ou c'était un médium. Il n'en démordait ni l'un ni l'autre. Et l'inspecteur recherchait activement tout ce qui, de près ou de loin, naguère ou jadis, avaient été les collaborateurs des spirites de la rue d'Assas. « Voyez-vous, me disait-il un jour, l'assassin a si bien maquillé son assassinat qu'il a trahi par cela même le métier qu'il exerce. C'est trop bien fait et surtout c'est trop fantastique. La suprême adresse eût été de nous donner le change en bluffant dans un autre ordre d'idées, avec d'autres expédients. » Et étant adroit par profession de simuler la maladresse. Mais, rétorquai-je, admettez un instant que le coupable ne soit pas un médium et qu'il se soit tenu votre raisonnement. Dans ce cas, sa ruse aurait consisté à maquiller ses crimes en crimes de médium afin de vous embarquer dans une fausse direction. Non, 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 la psychologie du meurtrier démontre un médium. Connaître si complètement les choses de l'occultisme révèle un occultiste. Il n'y a pas à sortir de là, si j'ose dire. C'est clair et net. Le gaillard est un roué technicien, mais sa technique et sa rouerie le perdent. Je m'inclinai. Je parlais de psychologie, reprit Coin. Très bien. C'est une faute de psychologie que notre homme a commise en choisissant les déguisements de ses crimes dans la garde-robe de sa profession, si riche soit-elle. On ne pense pas à tout. Cependant, les médiums, et j'entends ici les médiums mystificateurs, sont par définition des psychologues de première force, n'est-ce pas? Parbleu, mais ils jouent de leur mécène comme M. Stéphane Orlac jouait du piano. Mais il y a piano et piano, je veux dire cervelle et cervelle. Il ne faut pas confondre la cervelle d'un Apollonius d'Andorre avec celle d'un Cointre. Le premier ne demande qu'à se laisser berner, le second ne cherche qu'à surprendre. Soit un tempérament nerveux, impressionnable, un esprit crédule ou fantasque, une intelligence avide de trouvailles, inédite et portée à l'étude des connaissances ésotériques, quelle proie pour un médium, si le médium est un fripon? Oui, mais proie trop facile, dont la capture aisée habitue l'aigre fin à des succès peu coûteux et le prépare mal à des luttes plus rudes. Allez, monsieur Breteuil, roulez celui-ci et roulez celui-là, ça fait deux, c'est moi qui vous le dis. Et vous pouvez croire qu'entre un spirit et un détective, il y a quelque chose comme différence. Tout cela était fort juste, et je dois reconnaître que l'inspecteur Cointre portait dans ses actes autant de logique qu'en ses discours. Il disséqua, pour ainsi parler, tout l'hôtel de la rue d'Assas, de la cave au grenier, sans rien découvrir, du moins ce qu'il publia. Point de traces, point de vol, point d'effraction, point de pièces d'importance définitive. Bref, comme il disait, chou blanc. Seule une liste constituée de médiums lui sembla revêtue de quelque intérêt. Par acquis de conscience, il avait tenu à confronter le couteau du crime avec la fiche signalétique de Vasseur. On exhuma donc du fin fond des archives du service anthropométrique ce document classé dans la catégorie des décédés, et Cointre put vérifier que les empreintes du couteau et celles de la fiche étaient formidablement identiques. Les mêmes doigts les avaient imprimés, ici sur la corne du manche, là sur le carton marqué d'encre. J'étais avec lui ce jour-là, et je lui demandai quelques renseignements sur ce Vasseur, ce criminel endurci, dont l'exécution semblait n'avoir été qu'un petit incident du travail autour d'une carrière qu'elle n'avait pas interrompue. Mais ma question ne fut pas favorisée d'une ample réponse. Cointre, livré à des cogitations, me fit entendre que Vasseur avait payé sur l'échafaud des crimes d'une écœurante banalité, remarquable seulement par ce coup de poignard en X, dont sa dernière victime était poinçonnée à l'instar de la petite Pitoire, de la veuve Mouchot et de M. Virgogne, ses anciens clients. Soit qu'il fût absorbé par des réflexions relatives aux empreintes, soit que l'histoire de Vasseur lui parut totalement négligeable, je m'aperçus que tout insistant de ma part l'eût importuné. Je le laissai donc méditer, la moustache aux dents, devant la photographie face et profit de l'homme qu'il avait poursuivi, convaincu d'assassinat et mené au supplice. D'après sa photographie, Vasseur me fit l'effet d'un garçon très quelconque. Il portait toutes les marques de la médiocrité. Aussi bien fallait-il que l'affaire Vasseur eût été fort vulgaire, puisque malgré mon métier de journaliste spécial, je m'en souvenais à peine. L'affiche m'apprit seulement sa taille, 1m68, ses proportions, son âge, 28 ans, sa profession, horloger, et d'autres distinctives sans plus de conséquences. Voilà tout ce que je puis relater touchant l'instruction du double crime de la rue d'Assas. Pendant 3 semaines, elle avança laborieusement, n'amenant aucune découverte, et si tant est en vérité qu'elle avança, ce fut dans l'esprit des juges et du policier, sous forme de raisonnements inductifs et déductifs. Mais à considérer le visage de ces messieurs et la mauvaise humeur qui s'y peignait, sous l'expression d'une indifférence affectée, j'avais les dits de plus en plus nets qu'ils ne voyaient que du feu et que l'affaire Orlac de Crochant serait bientôt classée. L'inspecteur Cointre se prêtait sans plaisir à mes interviews. M. Bourquerin, mécontent lui-même, rêvait d'une plage bretonne vers quoi le retour d'un collègue allait tardivement lui permettre de fuir. Retenu par un attrait mystérieux, je renonçai définitivement à mes vacances et je fréquentais chez les Orlac autant que la discrétion m'y autorisait. Ils habitaient encore boulevard Montparnasse, faute de vouloir occuper l'hôtel de la rue d'Assas et faute de trouver ailleurs le logis désiré. Quant à prendre du repos à la campagne, il n'y fallait pas songer tant que l'instruction ne serait pas close. Stephen, à tout moment, était mandé au palais pour donner à M. Bourquerin de précieuses indications sur les habitudes de son père et de M. de Crochant. Il s'y rendait toujours en pestant avec une nervosité bien compréhensible qui lui pinçait les narines et tirait les plis de sa figure émaciée. Un soir, sortant de là et traversant la place Saint-Michel, dans l'allégresse qu'il éprouvait toujours à quitter le palais de justice, Stéphane crut deviner qu'un homme le suivait. Il se retourna et vit en effet derrière lui, tout près, un passant sombrement vêtu. Il pleuvait. Un froid prématuré mettait de l'automne dans l'air. Le ciel nuageux avait fait la nuit plus tôt que de saison. L'homme, derrière, s'encapuchonnait d'un imperméable. Une cigarette allumait une escarboucle dans l'ombre de sa face. Stéphane hâtait le pas sous son parapluie. Rue Danton, l'homme se rapprocha. Stéphane, pour voir, prit la rue Serpente qui est un boyau détourné. On le suivit. Sa chair et ses os lui semblaient alertés. Chaque cellule de son corps s'éveillait et il ressentait une grande sécheresse intérieure. Il continua de marcher sans but. Mais une main se posa sur son épaule et l'arrêta. On l'arrêtait, voilà le verbe. Mais le substantif, arrêt ou arrestation? Monsieur Stéphane Orlac, pas vrai? Demanda l'homme. Stéphane dut se taire, sous peine de gémir, et ses genoux défaillaient.